est-ce que les films de super-héros féminins sont moins bons que les films de super-héros masculins? Est-ce que les films de super-héros féminins sont boudés par les hommes parce qu'on est tous des gros misogynes? Ou est-ce que les films de super-héros féminins sont juste pas bons? Aujourd'hui, à Revue, je m'interroge. Pourquoi est-ce que les films de super-héros féminins n'ont pas le succès espéré? Et ça commence maintenant.
Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer.
Commençons par le commencement et parlons de Supergirl de 1984. Déjà, les films de Superman avec Christopher Reeves avaient connu beaucoup de succès, donc c'était normal d'essayer de transposer ça au féminin. Énorme budget. 35 millions de dollars en 1984, et ça, c'était pas rien, hein? Et peut-être que dans la profondeur de vos souvenirs, OK, vous vous souvenez de ce film-là comme « c'était pas si mauvais que ça ». Malheureusement, j'ai revu le film cette semaine pour essayer d'en faire une vidéo, et ce fut un choc. Écrit avec les pieds et scénarisé avec le cul, un film de 2 heures, beaucoup trop long, qui donne envie de pisser des lames de rasoir au lieu de continuer à le regarder, mais surtout, c'est très, très con. C'est un énorme nanar. Supergirl de 84 est un gros nanar. Vous avez peut-être des bons souvenirs concernant ce film-là, et si vous en avez, je vous en supplie, ne le revoyez pas, ça va tout ruiner pour vous. Mais à la fin de la journée, c'est pas un bon film. C'est dur à défendre, disons. Et comme je vous disais plus tôt, le film avait eu un budget de 35 millions. Malheureusement, il a juste fait 14 millions de recettes mondiales. Un échec cuisant. Même les clubs vidéo ne savaient pas quoi faire des cassettes qui leur restaient. Mais un échec pour Hollywood ne fait partie que de leur parcours. Alors, continuons le parcours hollywoodien et le super-héros féminin. En 92, arrive l'iconique Michelle Pfeiffer dans Batman, le retour. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Michelle Pfeiffer en Catwoman, ça le faisait, OK?
Je suis Catwoman.
Le personnage de Catwoman, ben, c'est un personnage secondaire dans Batman, quoi. C'est pas le personnage principal. Non. On est encore à l'époque où la plupart des rôles féminins dans les films de super-héros, c'est l'intérêt amoureux ou personnage secondaire. C'est l'époque. Et là, j'ai pas le choix de faire un saut jusqu'en 2000, OK? Et Bryan Singer qui arrive avec ses X-Men. Et là, des personnages secondaires, en voulez-vous, en v'là. Halle Berry en Storm, Anna Paquin en Rogue, Rebecca Rogen en Mystique et Framke Jensen en Jean Grey.
J'ai le pressentiment qu'il va se passer une chose horrible.
Et là, je parle que des personnages secondaires. Oui, parce que toutes les femmes dans la saga X-Men, jusqu'au 3, c'est des personnages secondaires. Jean Grey devient la méchante principale dans le 3. Sauf que, hein, les films de Bryan Singer, ben, ils ont du succès. Et ça, le succès à Hollywood à l'époque, ça entraînait la prise de risque. Et entre 2004 et 2006, 4 films qu'on peut classer dans la catégorie super-héros vont sortir avec des femmes au premier plan. Les héroïnes seront des femmes. En 2004, Catwoman. En 2005, Elektra. Également en 2005, Aeon Flux. Et en 2006, Ultraviolet. Aeon Flux et Ultraviolet, j'en ai parlé longuement sur la chaîne. Ces deux films, qui servent uniquement à nous montrer Mila Jovovich et Charlize Theron le plus souvent possible, le plus sexy possible, sans véritable histoire valable. Et peut-être que certaines personnes apprécient ces films-là pour des raisons X et Y, mais je crois qu'on peut tous s'entendre pour dire que ce ne sont pas des bons films. Parce qu'entre les effets numériques tout pourris qui ont moins bien vieilli qu'un casseau de framboise au soleil et l'insipidité des histoires que ces deux films-là essayent de nous raconter, ben, il n'y a rien à sauver. Là.
Elle maîtrise les arts ancestraux.
Ça m'amène maintenant au cas de Catwoman et Elektra. Deux licences, deux manières de voir les choses. D'un côté Marvel avec Elektra et de l'autre Catwoman avec DC. Commençons par Elektra, une sortie Marvel. On avait déjà vu Jennifer Garner en Elektra dans le très mauvais Daredevil avec Ben Affleck. Vous vous en souvenez de Daredevil avec Ben Affleck, de comment c'était pourri? Ben, Jennifer Garner, elle jouait déjà Elektra là-dedans. Et ils ont décidé de faire un film sur elle. Et l'idée de prendre un personnage secondaire d'un film pourri pour faire un autre film pourri avec ça, c'était clairement une idée de génie. Et quand on revoit Elektra aujourd'hui, ça peut facilement être considéré comme un anor. Parce qu'à quelque part, c'est un film qui réussit à échouer en tant que film de super-héros et film de baston. Parce que c'est vraiment pas un bon film de baston. Et j'ai pas honte de le dire, dans Elektra, les bastons sont à chier.
Une vision mystérieuse venue du passé.
Le film a un budget de 45 millions et en ramasse 56 au box-office mondial. Ça demeure un échec parce qu'un coup que les cinémas ont pris la moitié du 56 millions, les producteurs perdent encore de l'argent. Inquiétez-vous pas parce que Marvel est sur le point de ne plus jamais avoir besoin d'argent. Donnez-leur 3 ans là, et tout va changer. Mais un an avant Elektra, en 2004, il y avait un film de DC qui était sorti, Catwoman, avec Halle Berry. 100 millions de budget, 100 millions de budget pour un des pires films jamais écrits, tournés, montés, réalisés et montrés à un public. Et le mot que je cherche quand je parle de ce film-là, c'est malaisant. Parce que c'est 100 millions de budget pour 100 minutes de malaise, d'inconfort et de reflux gastrique. 1 million la minute. Et dans ce film-là, autant Halle Berry que Sharon Stone sont nuls à chier. Je crois qu'elles nous offrent les pires performances de leur carrière. Malgré que d'un autre côté, je pourrais dire que Halle Berry a tendance à faire des choix extrêmement douteux. Et Catwoman fait clairement partie du cursus obligatoire pour tous les fans de nanar, parce qu'à quelque part, c'est aussi un film qui nous rappelle que tu peux pas lancer de l'argent à un problème et espérer sortir un bon film parce qu'il a coûté cher. Quand il y a rien qui marche, il y a rien qui marche. Mais attention, une nouvelle ère arrive. Le MCU. Le Marvel Cinematic Universe. Tout ça commence en 2008 avec Iron Man. C'est suivi de Thor, c'est suivi de Captain America, c'est suivi de Doctor Strange, c'est suivi de Black Panther. Attends, là, je viens juste de nommer plein de personnages masculins. Ils sont où les femmes dans tout ça? Parce qu'il y en a des femmes dans l'univers Marvel. Je comprends pas, là. Non, mais c'est moi, là, où niveau solo, il n'y a pas de film avec des personnages féminins en premier plan, là. C'est quoi ça? C'est pas normal. Et le premier film avec un personnage féminin en premier plan du MCU sera Captain Marvel en 2019, 11 ans après la sortie de Iron Man. Et ça, c'est sorti juste avant la pandémie, si vous vous souvenez. Oui, oui. Un immense succès. 1,1 milliard de revenus au box-office mondial sur un budget de 160 millions. Incroyable machine à imprimer de l'argent. On avait dans ce film-là Samuel L. Jackson, tout rajeuni, tout mignon, Brie Larson avec son Oscar tout frais dans les mains, et un chat. Ouais. Un chat.
Oh, mais que t'es mignon, t'es trop mignon, toi, comme ça. Comment tu t'appelles, hein?
Fury.
Mais je tiens à rappeler à tout le monde qu'à l'époque, tout le monde avait la passion Marvel, OK? La fièvre Marvel habitait la planète. Oui, on était excités par tout ce que Marvel sortait. C'était une autre époque. Et le 1,1 milliard de revenus que ce film-là a fait est probablement la meilleure preuve que les gens allaient plus voir un Marvel et étaient prêts à voir n'importe quoi à cette époque-là. Parce que parlons du film, deux secondes. Le film en question, là, il n'est pas super bon. Déjà, faut que tu passes par-dessus le visage en plastique de Samuel L. Jackson. Mais surtout, Brie Larson rend Captain Marvel presque insupportable. C'est hyper dur de s'attacher au personnage de Captain Marvel parce qu'elle est jouée pas attachante. Non, elle est insupportable et on dirait que la fille s'en fout, quoi. Et je vous parlerai pas du scénario qui est quand même assez mollasson, là, c'est boiteux, là. Et avec le recul, on s'entend pour dire qu'il fallait vachement aimer ça pour se taper 2 heures de Capitaine Marvel. Je crois qu'on peut s'en parler maintenant.
Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers.
Héroïque.
Et parallèlement à tout ça, si on voit très peu les héros féminins au grand écran, au cinéma, on les voit beaucoup plus sur les plateformes. Pensez à WandaVision avec son concept de sitcom. Très divertissant, ça marche, ça fonctionne, les gens aiment ça, les critiques aiment ça. Super concept, super bien exécuté. Il y a la série Jessica Jones aussi sur Netflix qui est regardable, quoi. Après, t'as She-Hulk et t'as Iron Heart. Ça se regarde pas. C'est insoutenable. C'est terriblement mauvais. Alors que d'un autre côté, toujours sur Disney+, t'as Echo qui sort. Et encore aujourd'hui, on se pose tous la même question. Mais pourquoi? À quoi est-ce que la série Echo sert? Et Marvel a pas fini avec ses crampes au cerveau, OK? Parce que là, ils vont décider de sortir un film Black Widow après avoir tué Black Widow. Ouais. L'arc du personnage de Scarlett Johansson s'était terminé dans Infinity War. Elle avait donné tout ce qu'elle avait à donner au MCU. Mais apparemment pas, non. Est-ce qu'on a eu le film 10 ans trop tard? Oui. Est-ce que c'était une bonne idée de sortir ce film-là en plein COVID? Non. Est-ce que le film Black Widow est probablement le film de super-héros le plus interchangeable, sans véritable enjeu et d'un ennui mortel? Absolument. Est-ce que Scarlett Johansson et Florence Pugh, du haut de leur 1,55 m et avec toute la puissance de leurs 43 kilos, pètent des gueules tout le long du film? Vous pouvez être certain que oui. Et est-ce que rendu à la fin de ce film-là, t'es plié en deux de rire sur ton canapé parce qu'ils sont en train de sauter en bas d'une maison volante et tu te poses toujours la question « C'était quoi ça? » Peut-être que je parle juste pour moi ici. Et c'est là que tu réalises que Scarlett Johansson devait avoir une clause dans son contrat qui les obligeait à sortir un film sur Black Widow. Parce que ce film-là sert à rien. Mais absolument à rien. Ça continue pour Marvel parce qu'avec la mort de Chadwick Boseman, le Black Panther, ils doivent trouver son successeur et ils choisissent une fille qui devient Black Panther pour Black Panther 2. Est-ce que les gens vont pas voir le film parce que c'est une fille qui devient Black Panther ou ils vont pas voir le film parce que c'est pas bon? D'après vous. Et Sony Marvel, pour réenchérir sur la crétinerie, eh bien, eux, ils sortent Madame Web. Encore là, que des femmes émules à quelque part de Spider-Man. Madame Web, ça n'a pas été facile pour eux, quoi. On parle ici d'un flop gigantesque porté par un scénario écrit par un débile consanguin et une cinématographie qui nous rappelle un mauvais épisode de Sydney Fox, l'aventurière. Mais bon, d'un autre côté, les filles sont jolies. Passons au DCU maintenant, oui. Le DC Universe. Oui. Cinematic Universe, peut-être. DC Cinematic Universe. Oui, ça. Eux, ils misent tout sur Margot Robbie et Harley Quinn.
Quoi?
Est-ce que Margot Robbie est le bon casting pour Harley Quinn? Moi, je vous dis tout de suite, selon moi, oui. C'est clairement la meilleure chose qu'il y a dans les deux Suicide Squad, c'est Harley Quinn. Et ces films-là sont remplis de défauts. Mais Harley Quinn est la petite lueur au fond de l'abysse. Et je pourrais argumenter longtemps sur l'utilité d'Harley Quinn dans une équipe de super-héros. Parce que Harley Quinn, elle n'a pas de super-pouvoir. Elle n'a pas de force surhumaine. Elle a quoi? Elle a une grande gueule? Mais ça, ça peut te saouler, mais ça fait pas vraiment mal.
Les honnêtes gens s'en tapent.
Mais bon, on va passer par-dessus ça et DC a tellement confiance en Margot Robbie et le personnage de Harley Quinn qu'ils vont lui donner son propre film avec un titre « Accouché d'or ». Birds of Prey, la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Juste le titre te donne envie de rester chez vous. Et le film, c'est de la merde. Il n'y a pas 12 manières de parler de ce film-là. C'est de la merde. Le générique du début est à peine commencé que tu te poses déjà la question « Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? » C'est un film qui est indéfendable parce qu'il échoue encore une fois à tous les niveaux et c'est tellement mauvais que plus personne ne parle d'Harley Quinn maintenant. Plus personne ne parle de Margot Robbie en Harley Quinn. Elle qui était encore une fois le rayon de soleil dans l'abysse, là. Plus personne ne parle d'elle, tellement son film solo, c'était de la merde. Par contre, DC va réussir un exploit du jamais vu. Ils vont réussir à faire un bon film de super-héros féminin. Wonder Woman. Le film sort en 2017. On a accès au monde des Amazones. Ensuite, on transpose ça à la Première Guerre mondiale et on rencontre une Gal Gadot qui habite le personnage. Et ça marche. Oui, le film marche. En tout cas, les deux premiers tiers du film fonctionnent très bien. La fin est un peu générique, là. Combat contre un méchant, etc. Mais les deux premiers tiers du film, t'es dedans. C'est un très bon film de super-héros. Et c'est, selon moi, le meilleur film de super-héros féminin qui ait jamais été fait. Le film aura même énormément de succès au box-office parce qu'avec un budget de 149 millions, ils vont en ramener 843. Ça, c'est plus que Justice League. Est-ce qu'il y a une astérix à toute cette histoire de Wonder Woman-là? Bien sûr. Wonder Woman 1984. C'est la grosse astérix, ça. Est-ce que ça nous enlève un peu de capital sympathie qu'on avait pour le premier film? Oui, parce que la suite est vraiment pas bonne, quoi. Mais vraiment pas bonne.
C'est très laid.
Oui, c'est pas du goût de tout le monde.
Et là, on arrive à la question qui tue. Pourquoi est-ce que les films de super-héros féminins ont moins de succès que les films de super-héros masculins? Et là, pensez à tous les films dont j'ai parlé depuis le début de la vidéo, OK? Pensez-y deux secondes. Tous ceux que j'ai parlé. Est-ce qu'il y a des films défendables là-dedans qui auraient dû connaître beaucoup plus de succès? Est-ce que c'est la faute des hommes? Oui, les hommes. Ceux qui représentent 85% du public qui va voir des films de super-héros et qui peut-être n'ont pas envie de voir des films de super-héros féminins. Hein? Est-ce que c'est parce qu'on est miso? En tout cas, c'est ce que les réseaux sociaux nous disent. Parce que dès qu'un de ces films-là sort et n'a pas le succès espéré, on blâme les hommes. C'est de votre faute. Si le film marche pas, vous n'êtes pas allé voir le film au cinéma parce que vous aimez pas les femmes. Ouf. Cet argument-là, il commence à me faire chier solide. À ceux et celles qui défendent cet argument-là, regardez tous les films de super-héros féminins qui sont sortis et dites-moi qu'on y va pas parce qu'on n'aime pas les héros féminins. Non, on y va pas parce que les films de super-héros féminins, c'est de la merde. S'il y en a juste un bon qui sort tous les 40 ans, là, le problème, c'est peut-être pas le public. Hein? Et si à travers toutes les années depuis 2008, là, où ils ont tout fait pour élargir le public des films de super-héros, ils ont toujours pas réussi à amener plus de femmes au cinéma pour regarder des films de super-héros féminins. Est-ce que ça, c'est le problème des hommes ou c'est le problème de la qualité des films? Parce que moi, je suis prêt à prendre une part de blâme sur tout. Hein? Moi, je suis ouvert à tout si l'argument est logique. Mais présentement, si on regarde ce qui a été fait, ce qui se fait, le problème, c'est pas le public, mais la qualité de ce qui nous est proposé. Et j'ai envie de dire que les mauvais films de super-héros masculins n'ont pas plus de succès que les mauvais films de super-héros féminins. Et quand un film de super-héros masculin se plante au box-office, on n'entend pas dire que les hommes se sont pas pointés pour aller voir le film ou que les femmes ont démoli le film sur les réseaux sociaux. Et les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, mais le cinéma demeure une forme de méritocratie où les bons films, les gens ont tendance à se déplacer pour aller les voir. Si c'est pas bon, le monde y reste chez eux. Et quand j'ai vu que le film de Supergirl commençait à se planter et tout, et que ça atteignait pas les attentes, et là, ça a commencé à sortir. Les mecs sont misogynes, les fans de Snyder sont toxiques, les fans de DC sont toxiques. Et ça m'a fait rire. Vous savez pourquoi? Déjà parce que parlez-en bien ou parlez-en mal, tant que vous en parlez, ça arrange les studios parce que le film continue d'exister. Oui, les réseaux sociaux, ça récompense beaucoup la crétinerie. Mais également, selon moi, parce que quand on parle de fan-bashing ou de misogynie, OK, ben, ça évite de parler du film, des vrais problèmes d'un film. Est-ce que le scénario est bon? Est-ce que l'histoire nous transporte? Est-ce que le personnage est attachant? Est-ce que ça donne envie de voir une suite, d'en voir plus? Parce que tant qu'on blâme les fans, les hommes et les réseaux sociaux pour quelque chose, là, ben, on parle pas du vrai problème, de ce qui crée véritablement l'échec d'un film, la qualité du film. Sur ce, ben, je serai live à 20h30 ce soir sur Twitch pour regarder L'Ordre de l'Aigle Noir. Ça va être un beau moment. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.